Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Kieran Gessel, Fanny Richet, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Clément Batté. Un avenir à la fois pluvieux et moins pluvieux, voilà ce qui attend le Royaume-Uni si jamais les Écossais décident demain de dire oui à l'indépendance. Pluvieux, les hommes du Royaume le seront, la perte de l'Écosse leur permettant de gagner, c'est la magie des statistiques, 10 semaines d'espérance de vie. Moins pluvieux, il pleuvra en moyenne annuelle 200 mm de moins dans un Royaume-Uni privé du crachin écossais. Voilà ce que nous apprenait il y a quelques jours une infographie publiée dans le journal Le Monde. Alors, ce sont de bien maigres bénéfices au regard des pertes. Pertes territoriales tout d'abord, un tiers du royaume. Pertes d'influence à l'international ensuite, que ce soit au Conseil de sécurité de l'ONU ou au sein de l'Union européenne, à condition bien sûr d'y rester. Pertes d'identité enfin. Que resterait-il de la Britishness, la britannicité, ce sentiment d'appartenance à une large communauté si celle-ci devait être à ce point amputée? D'autant qu'après les Écossais, les Gallois et les Nord-Irlandais pourraient à leur tour décider de s'émanciper. Que resterait-il? L'Angleterre, rien que l'Angleterre, ce qui n'est pas rien. Plus de 50 millions d'habitants, une capitale mondiale avec Londres, place financière et touristique majeure, une culture populaire, véhiculée par une langue qui reste le premier outil de communication mondiale. Alors l'Angleterre peut-elle vivre seule? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir trois professeurs de civilisation britannique. Roselyne Théron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'équipe de recherche IDEA, interdisciplinarité dans les études anglophones. C'est à l'université de Lorraine, à Nancy donc. Vos recherches portent sur les politiques régionales en Angleterre et le soft power britannique.
Tout à fait.
Pour discuter avec vous, Trevor Harris, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'université de Picardie, Jules Verne, c'est à Amiens. On vous doit en 2006 aux éditions Armand Collin une certaine idée de l'Angleterre. Et puis vous avez publié en 2012 aux éditions Fahrenheit la décolonisation britannique, perspective sur la fin d'un empire. Notre troisième invité se trouve dans les studios de France Bleu à Bordeaux. Il s'agit de Moya Jones. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux 3. Vous avez co-dirigé en 2011 Dévolution et gouvernance du territoire britannique aux presses universitaires de Bordeaux. La dévolution, c'est un terme que nous serons amenés à préciser dans le courant de cette discussion. Mais pour commencer, une interrogation, en tout cas une surprise. D'habitude, quand on prépare une émission, je me retrouve en général avec une documentation assez épaisse. C'était le cas hier, par exemple, quand on a fait une émission sur les politiques de rigueur et d'austérité. Mais alors, s'agissant des Anglais, on a eu quand même un petit peu de mal dans l'équipe à trouver des travaux qui s'intéressent spécifiquement à l'Angleterre. J'aimerais savoir si c'est une difficulté à laquelle vous êtes vous-même confronté, Roselyne Théron, et si oui, comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors, une difficulté, pas vraiment. Il y a des ouvrages qui s'intéressent à ça. Bon, je pense notamment à ce qu'a publié Jeremy Paxman, The English, qui est vraiment une étude, une réflexion d'un journaliste, mais très, très bien menée, sur ce que c'est qu'être anglais et pas être britannique. Mais sinon, effectivement, je pense que Travers sera d'accord avec moi. La plupart du temps, on parle d'identité britannique et on voit l'ensemble du Royaume-Uni. Ou alors, une entité culturelle spécifique. Comme l'Écosse ou le Pays de Galles.
Ça veut peut-être dire d'ailleurs que l'identité britannique et l'identité anglaise, c'est exactement la même chose, Trevor Harris ?
Ça dépend de quel côté de la Manche on regarde la chose, en effet. Moi, j'ai constaté depuis très longtemps qu'en France, il y a peut-être effectivement un manque d'intérêt dans la chose britannique, la chose anglaise, une espèce de séparation entre ce que pensent les Français de l'Angleterre et ce que les Anglais pensent d'eux-mêmes, bien sûr. Est-ce que l'Angleterre et la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, c'est la même chose? En France, en tout cas, on utilise le vocable Angleterre pour désigner l'ensemble, ça c'est certain. Pour les Britanniques, c'est plus difficile. Je pense que dans l'esprit d'une très grande majorité de Britanniques, l'Angleterre, effectivement, souvent équivaut au Royaume-Uni.
Moya Jones, peut-être que si les Français s'intéressent peu à l'Angleterre, ça témoigne aussi du poids qu'est celui de l'Angleterre aujourd'hui. Il y a énormément de littérature, par exemple, sur l'Allemagne. En France, c'est très, très facile d'en trouver. Est-ce que ça peut dire quelque chose de ce qu'est, de ce que pèse l'Angleterre et le Royaume-Uni aujourd'hui ? Moya Jones.
Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis d'accord avec vous que les Français ne s'intéressent pas à l'Angleterre. Ils s'intéressent au Royaume-Uni. Ils s'intéressent
on s'y intéresse ce soir, mais on parle essentiellement des Écossais en ce moment. Nous, si on a voulu faire l'émission, c'est parce qu'on s'est dit on parle des Écossais, que des Écossais. Mais qu'en pensent les Anglais ?
Mais je reviens à ce qu'a dit Trevor Harris tout à l'heure. Pendant de longues années, en France, on a employé le nom Angleterre pour parler de cet État britannique et on n'a pas distingué entre les différentes parties, les différentes nations qui le composent. Et ça fait partie d'une bataille personnelle pendant de très longues années. Précisez, si vous dites Angleterre, vous voulez bien dire Angleterre. Parce qu'en Écosse, si vous êtes en Écosse ou au Pays de Galles et vous parlez de l'Angleterre, en désignant leur pays, le pays autour de vous, les gens s'indignent tout de suite.
Bah alors ce soir, on va justement essayer de faire preuve de précision justement sur les thèmes que nous allons utiliser. On ne va pas s'éterniser sur ce que risquent d'être ou pas les résultats du référendum de demain en Écosse, Trevor Harris, mais qu'on peut dire qu'en tout cas, si l'Écosse devait faire sécession, le Royaume-Uni deviendrait beaucoup plus anglais qu'il ne l'est déjà aujourd'hui.
Il le deviendrait beaucoup plus, oui, inévitablement. Je ne sais pas quelles seraient les autres conséquences dans l'immédiat. Je pense très honnêtement que bon, on parle beaucoup des conséquences possibles de cet acte, de ce référendum de demain. Je pense qu'au quotidien, du moins pendant un certain temps, vraiment la différence serait plus ou moins imperceptible. Et comme le Royaume-Uni effectivement se pense et comme très anglais de toute façon, la transformation, à mon avis, serait relativement lente et il reste évidemment à voir de quelle façon il va se transformer.
Donc, Roselyne Théron, si le Royaume-Uni devient encore plus anglais, ceux qui ne sont pas anglais, à savoir les Irlandais du Nord et les Gallois, pourraient être tentés de suivre l'exemple écossais ? Est-ce que ce serait le début de la fin pour le Royaume-Uni ?
Alors ça, peut-être que Moya, qui est une spécialiste du Pays de Galles, sera mieux placée que moi pour répondre, mais ce qui est certain, c'est que ça va soulever énormément de points d'interrogation. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Trevor. Pour moi, je vois deux. Je me suis intéressée à ce que pensaient, à ce qu'écrivaient les Écossais qui sont favorables au non, qu'on a moins entendu. D'abord parce qu'effectivement, il est plus difficile de s'affirmer comme partisan de l'Union alors que les indépendantistes sont très très visibles. North of the border, au nord de la frontière. Mais beaucoup, tout en affirmant leur désir de rester dans l'Union, expriment bien le fait que, après tout, l'Angleterre l'a bien cherché parce que pendant des décennies, voire des siècles, il n'y avait pas de... C'était vu comme être britannique, c'était être anglais d'une façon un peu plus large, sans vouloir reconnaître les apports spécifiques de chaque région. Et ensuite, après je laisserai la parole à mes collègues, mais l'Angleterre n'est absolument pas unie. Si vous demandez à un habitant de Newcastle ou de Hull s'il se sent anglais et qu'il va il va certainement vous répondre, en tout cas, qu'il ne se sent certainement pas londonien et que ceux du Sud, il ne faut pas lui en parler.
Alors si les Anglais ne sont pas unis, a fortiori, les Gallois ou les Nord-Irlandais peuvent eux aussi éprouver une forme de ressentiment à l'égard de l'Angleterre, Moya Jones.
Alors, si vous suivez le rugby, si vous vous intéressez au rugby, à ce sport-là, il y a une chanson que chantent les Gallois, c'est pourvu qu'on batte les Anglais. Et ça, c'est un sentiment qui est partagé par les Irlandais, les Écossais aussi. Il y a un ressentiment populaire ancré, non seulement dans le sport, mais le fait que l'Angleterre est aux manettes, ce sont des conservateurs qui sont aux manettes. Au Pays de Galles, on a élu des travaillistes. En Écosse, on a élu des nationalistes. En Irlande du Nord, c'est encore une autre configuration. Mais on a quand même un gouvernement conservateur au pouvoir à Londres. Actuellement, c'est une coalition, mais dans les années 80, c'était le gouvernement. Il y avait Madame Thatcher et ensuite Monsieur Major à la tête. Et ces populations galloises, écossaises, nord-irlandaises se sont dit mais on n'a pas voté pour eux et on les a eus quand même.
Très Harris.
Oui, je crois que vous avez raison de souligner cette idée de ressentiment, le ressentiment au Pays de Galles, en Écosse, certes, mais à l'intérieur de l'Angleterre aussi. Il est évident que, quel que soit le résultat du vote demain, d'ailleurs, dans l'extrême nord-est de l'Angleterre et l'extrême sud-est aussi, dans les Cornouailles, et même certaines autres régions, il y a un sentiment régional, une identité régionale qui est toujours restée très, très enracinée.
Oui, ça, je dois dire. Alors, j'étais assez frappé par une interview de l'écrivain écossais John Burnside, qui était interrogé il y a quelques jours dans le journal Le Monde à nouveau, et qui disait ceci. Alors, si l'Écosse fait sécession, d'autres régions du Royaume-Uni seront tentées d'en faire autant, notamment le Pays de Galles. Bon, ça, pas vraiment de surprise. Il cite les Cornouailles et le Yorkshire. C'est-à-dire que ce sont des régions anglaises qui pourraient vouloir quoi ? Vouloir leur indépendance, Roselyne Théroux ?
Alors, pas forcément l'indépendance, mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'on s'intéresse un petit peu au fossé nord-sud, hein, le North-South Divide, on voit que le ressentiment, finalement, en tout cas, le ressenti, pourrait être plus mieux partagé entre le nord de l'Angleterre et l'Écosse qu'entre le nord de l'Angleterre et le sud-est de l'Angleterre. Il y a très souvent l'idée que...
C'est quoi, c'est le nord ouvrier contre le sud nord, plus bourgeois ?
Le nord ouvrier et l'Écosse ont fait la riche Angleterre et l'Empire qu'on connaît avec la révolution industrielle, avec une forte émigration dans l'Empire et dont tout le prestige, et on y reviendra, l'image de l'Empire britannique... Et puis, quand les minerais et les filons sont épuisés, sous l'époque Thatcher, l'impression a été qu'on les a abandonnés à leur triste sort et que les choix politiques de développer les services financiers à Londres ont produit une nation hydrocéphale avec Londres et le Sud-Est qui trustent tout. Effectivement, il y a l'impression que nous, on est les travailleurs, nous, on est les gens qui ne sont pas dans le glamour, dans l'ostentation, même s'il y a des poches de pauvreté dans le sud. Hein. Mais voilà, ça s'articule là-dessus, c'est lié vraiment à l'histoire économique et à la constitution de la force de la Grande-Bretagne.
Donc ça veut dire, Trevor Harris, que c'est même compliqué de définir aujourd'hui une identité anglaise. Est-ce qu'on peut parler d'un malaise identitaire en Angleterre? On en parle souvent pour s'agissant de la France. Est-ce que c'est aussi le cas chez les Anglais?
Je crois qu'il existe depuis un moment, d'ailleurs, ce malaise. Je crois qu'il est très réel. Dans le cadre immédiat de cette question qui va être posée aux Écossais demain, mais sur une histoire beaucoup plus longue, parce que on s'aperçoit, lorsqu'on se penche un petit peu sur l'histoire moderne et contemporaine de l'Angleterre, que finalement... C'est un pays dont l'identité un petit peu s'est définie en creux, c'est-à-dire que l'Angleterre a toujours été ailleurs qu'en Grande-Bretagne, c'est-à-dire que l'identité britannique a été construite dans l'Empire, dans le Commonwealth après. Donc il est donc logique, la conséquence évidente de ça, c'est que quand on se sépare de l'Empire et quand on se sépare quand même de plus en plus du Commonwealth aussi, on y joue un rôle de plus en plus mineur, si on peut dire, ce qui constituait l'identité s'en allant, on se pose la question. Donc le malaise est là, il existe depuis longtemps, et le problème actuel autour de la question écossaise en est un exemple un peu plus précis.
Moya Jones ?
Il y a une question à se poser, qui parle pour l'Angleterre ? Il n'y a pas de parlement anglais. Il y a un parlement à Édimbourg, il y a une assemblée à Cardiff et à Belfast, il y a aussi une assemblée législative.
C'est peut-être le moment d'expliquer d'ailleurs ce que c'est que la dévolution, justement. La dévolution, ça s'est traduite par la création de ces parlements nationaux.
C'est ça. La dévolution de certains pouvoirs vers ces gouvernements nationaux, régionaux, comme vous voulez. Mais on n'a rien fait pour l'Angleterre. Qui représente l'Angleterre alors ? Jusqu'à là, on s'est contenté du parlement à Westminster, où siègent quand même des députés élus dans des circonscriptions écossaises, nord-irlandaises et galloises.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir des députés gallois ou nord-irlandais ou écossais qui vont prendre des décisions à Londres qui concernent les Anglais, mais l'inverse n'est pas vrai, c'est ça ?
Voilà. Et ça s'est déjà produit. Et il existe une campagne pour un parlement, pour rétablir un parlement anglais qui a été perdu en 1707 lorsqu'il y avait la fusion avec le parlement écossais. Mais autrement, qui représente les Anglais ? Qui parle au nom des Anglais ? Il y a, est-ce que c'est le UKIP, le parti qui souhaite l'indépendance, l'émancipation de la Grande-Bretagne, qu'elle sorte de l'Union européenne ? Je ne pense pas.
Il y a un déficit de représentation aujourd'hui vécu par les Anglais.
Absolument.
C'est ça.
Rosine Théron ?
Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ce que dit Moya. Et pour reprendre sa référence au rugby, qui est toujours très, très éclairante pour le Royaume-Uni, me semble-t-il, on entend régulièrement à chaque tournoi destination, donc tous les ans, la question des hymnes, qui n'est pas du tout accessoire, parce qu'effectivement, les nations ont toutes leur hymne. D'ailleurs, l'hymne écossais, avec la princesse Anne qui siège toujours dans les gradins, célèbre une déculottée subie par les Anglais. Donc ça, c'est la petite anecdote. Mais les Anglais se lamentent beaucoup, enfin très souvent, en disant que eux n'ont pas leur propre hymne, disons « God Save the Queen ». On voit ressurgir beaucoup le drapeau, la croix de Saint-Georges dans le sud-est, vraiment, pour marquer le fait que, bon, ils ont quand même ça, hein, puis la rose. Mais il y a un vrai problème. Et les études sociologiques montrent que le problème est particulièrement aigu dans les jeunes générations masculines qui n'ont pas de. Les franges celtiques ont une identité culturelle à valoriser. Les minorités culturelles ont la culture de des pays d'origine. Et les jeunes Anglais en période de chômage sont effectivement dans un vide.
Ça veut dire, Trevor Harris, que si demain c'est le non à l'indépendance qui l'emporte en Écosse, comme semblent le dire désormais les sondages, et que le Parlement écossais va obtenir davantage de pouvoir, encore qu'il n'en a aujourd'hui, est-ce que ça supposera aussi qu'il y ait un vaste débat, de toute manière, au Royaume-Uni, sur l'organisation des pouvoirs ? Est-ce qu'on peut se diriger vers une grande réforme territoriale, comme essaie de faire la France aujourd'hui?
Je pense que c'est tout à fait possible. Les promesses qui ont été faites ces derniers jours par les leaders de tous les principaux partis à Westminster, disant que si les Écossais votent non, il y aura, de toute façon, il y aura d'autres pouvoirs qui seront dévolus selon un calendrier très, très rapide. Et déjà, ça soulève une espèce de controverse à Westminster et il ne manquera pas de cela ne manquera pas de s'étendre. Des membres du Parti conservateur déjà disent à David Cameron qu'il n'avait absolument pas de mandat pour faire ce genre de promesses et que si on dévolue tous ces pouvoirs au lendemain d'un référendum où la réponse sera non, c'est encore une façon d'affaiblir l'Union de toute façon et que l'Angleterre va pâtir encore davantage de la présence de l'Écosse dans l'Union. Donc la situation est un petit peu à double contrainte actuellement pour la classe politique britannique, c'est certain, et de plus en plus, je pense, pour la population anglaise.
Moya Jones, Nigel Farage, qui est donc le leader de UKIP, qui est ce parti nationaliste qui a réalisé un score très important aux dernières élections européennes, dit « Je suis partisan d'un Royaume-Uni fédéral ». Est-ce que le fédéralisme, c'est une piste qui est à l'étude aujourd'hui, qui est débattue pour permettre justement aux Anglais de retrouver un peu de leur identité et de leur singularité ?
C'est une question très intéressante et la réponse est très courte, c'est non. Le fédéralisme n'est pas à l'étude du tout. Et on a vu que le gouvernement à Westminster n'a pas de projet, de plan de contingence. On voit la panique, c'est la panique à bord à Westminster. Ils n'ont pas du tout envisagé que Louis puisse l'emporter. Et c'est pour ça qu'on a vu ces dernières semaines les voyages répétés des chefs des partis et Nigel Farage lui-même monter à Édimbourg pour plaider avec les Écossais. Et on a vu le discours très émotionnel de David Cameron, je pense que c'était lundi soir, pour que les Écossais votent contre l'indépendance et restent avec l'Union britannique. Mais il n'y a pas de projet du tout, absolument rien. On se croirait en août 1914.
Ce qui fait beaucoup rire Rosine Théron et Trevor Harris. Rosine Théron, vous disiez tout à l'heure, moi je me suis beaucoup intéressé aux partisans du non en Écosse. Mais on pourrait aussi s'intéresser aux partisans du oui en Angleterre. Est-ce qu'ils existent ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des Anglais qui disent « nous, on serait bien mieux sans les Écossais ».
Alors, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais j'ai des connaissances. Enfin, c'est une opinion que j'ai entendue souvent en disant mais ils nous enquiquinent, un petit peu comme les Français réagissent parfois avec les continentaux par rapport aux Corses en disant mais qui s'en a ici, on leur parce que finalement très souvent l'idée c'est que les réformes sociales votées par le Parlement écossais depuis la dévolution se sont faites grâce à la bonne santé de l'économie britannique dans son ensemble. Autrement dit, du Sud-Est. Et que certes, il y a le pétrole écossais, mais qu'il n'y sera pas là tout le temps. Et que de toute façon, même n'y aurait-il que le pétrole écossais, il ne pourrait pas être aussi généreux. Et je ne sais pas ce que Trevor en pense.
Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois qu'il y a effectivement un ressentiment chez de nombreux Anglais. Ils nous enquiquinent, ces Écossais. Et lorsqu'on sait que sur telle ou telle année, sur le budget global du Royaume-Uni, pour les 8 ou 8,5% de la population britannique que représentent les Écossais, sont grévés à peu près 10% de ce budget, c'est-à-dire qu'ils reçoivent par tête de population davantage d'argent que les Anglais ne reçoivent. Il y a une espèce de sentiment qui s'installe chez les connaissances avec qui j'ai parlé aussi récemment, d'ingratitude, d'une certaine façon. Donc je crois qu'il y a effectivement un camp virtuel de oui en Angleterre.
Il faut préciser que demain, les Anglais ne vont pas voter pour ce référendum. Ce sont uniquement les Écossais. Est-ce que les Anglais auraient aimé pouvoir se prononcer ?
On me dit souvent, lorsque je parle à mes connaissances en Angleterre, que l'union s'est faite en 1707 avec un accord de part et d'autre. C'était quelque chose qu'on a fait évoluer ensemble et qui dépendait en fait des deux pays. Qui ont fait la Grande-Bretagne en 1707, alors que maintenant, on décide de potentiellement casser l'Union, mais selon la réponse donnée par une seule partie et une partie minoritaire.
Alors, les Anglais auront peut-être l'occasion, d'ici quelques mois, de se prononcer sur un autre référendum, qui, celui-ci, serait pour ou contre une sortie de l'Union européenne. Moya Jones, est-ce que, avec peut-être une Écosse ou qui serait en dehors, en tout cas qui serait plus puissante, est-ce que le Royaume-Uni contribuerait à s'affaiblir en s'engageant dans ce processus peut-être de sortie de l'Union européenne ?
Ah, c'est une question un peu difficile, parce que si l'Écosse s'en va justement et on tient ce référendum, en effet, le Premier ministre l'a promis, ce vote. Comment voteraient les Anglais, enfin ceux qui restent du Royaume-Uni ? Il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient quitter l'Union européenne. Ils voient ça comme un poids. C'est être dirigé depuis Bruxelles et non depuis Londres, ça touche à la souveraineté du pays. Ce n'est pas du tout souhaitable. Il y a trop de règlements qui proviennent de Bruxelles et pas assez de bon sens et de lois qui sont votées à Westminster.
Et pourtant, l'économie du Royaume-Uni ne va pas si mal que ça, hein, actuellement.
Mais oui, justement, l'économie du Royaume-Uni et même l'économie du Royaume-Uni après le départ de l'Écosse se porterait bien, quand même. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager une sorte d'avenir, une sorte de... comme sur le modèle de Hong Kong, ce qu'a été Hong Kong pendant de longues années, ou Singapour, une indépendance avec des attaches aux États-Unis, des attaches à l'Europe, mais libre d'évoluer comme le pays l'entend. Je ne sais pas.
Oui, alors c'est très intéressant la question de l'Europe parce que effectivement, étant donné la structure de l'économie britannique et le poids des services financiers et donc du Sud-Est à Londres, et étant donné toutes les dérogations qu'ont obtenues les Britanniques par rapport aux réglementations européennes, ça peut très très bien marcher, ça marche très bien. Ce qui est toujours intéressant de voir, c'est de se demander pourquoi, notamment en Écosse, le soutien à l'Europe est beaucoup plus important. Il est intéressant de noter que, par exemple, lors des dernières élections européennes, il y avait 27% pour UKIP en Angleterre et 10% en Écosse. Pourquoi ? Parce que les franges celtiques sont très souvent nettement plus pauvres que l'Angleterre en moyenne, et donc bénéficient beaucoup plus des programmes d'aide. Le FEDER a fait énormément de projets le programme de développement économique, hein, des régions. Il y a beaucoup plus de programmes de collaboration intra-régionale ou inter-régionale au niveau européen entre les régions, enfin toutes les parties du Royaume-Uni et l'Irlande, sauf l'Angleterre.
C'est très intéressant parce qu'il y a déjà eu un référendum sur l'appartenance de la Grande-Bretagne à la CEE à l'époque, en 1975. Et les résultats à l'époque, il y a plus des deux tiers des Britanniques qui ont voté pour rester dans la communauté. Mais lorsqu'on analyse ces résultats-là, c'est plus on s'éloignait du sud-est de l'Angleterre, moins grand était le score pour vouloir rester. Si on faisait la même chose aujourd'hui, je suis à peu près certain que les résultats seraient inversés. Et donc ce sont les Anglais justement qui seraient, qui sont le plus anti-européen entre guillemets. Mais cette question des deux référendums qui se suivraient peut-être à quelques petites années d'intervalle, je ne dirais pas que c'est une fausse question, mais je ne suis pas... Il y a beaucoup d'observateurs et de commentateurs qui partent du principe que si que l'Écosse va voter comme elle votera, mais si elle quitte le Royaume-Uni, ça va rendre la vie extrêmement difficile pour l'Angleterre. Et puis, ma foi, voilà les Anglais qui veulent quitter l'Union européenne. Ça va être catastrophique. Ça va être un double coup impossible à porter. Mais je ne suis pas certain que les Anglais, s'ils voient justement une Écosse indépendante, vont être entraînés de cette façon mécanique à voter pour se retirer de l'Union européenne.
Alors je voudrais citer quelqu'un que Moya Jones doit connaître, peut-être vous deux aussi d'ailleurs, hein, François-Charles Mougel qui est professeur d'histoire contemporaine. Il se trouve qu'il a participé à l'ouvrage qu'a co-dirigé Moya Jones et qui dit ceci par rapport à l'Union en général. Pour Londres, l'Union européenne doit être un terrain d'application de ses conceptions idéologiques et un relais de son influence. On retrouve bien ici le sens particulier que recouvre outre-Manche le concept d'union, à savoir, dans son acception anglaise, une volonté de domination plus que d'intégration. C'est-à-dire, si les Anglais ne peuvent pas dominer, ils préfèrent partir. C'est ça, Moya Jones?
Je ne sais pas si je suis entièrement d'accord avec, avec ce propos. Je vous citerai plutôt Winston Churchill, qui a dit...
Alors là, on le connaît tous.
Bonne référence.
À la fin des années 40, lorsqu'on était en train de construire l'Europe, il était très pour une Union européenne, mais il ne voulait pas en faire partie. Il disait, c'était en anglais, il a dit « We are with them, but not of them ». On est avec eux, mais on n'est pas européen, quoi. On est de leur côté, mais on ne veut pas se joindre à eux. Et ça perdure, c'est un sentiment qui existe encore. Mais quand on parle de référendum, on a longtemps dit que la pratique référendaire, ce n'était pas un outil politique que l'on employait en Grande-Bretagne, contrairement à certains pays comme l'Irlande, par exemple, la République irlandaise. Sauf qu'on commence à voir maintenant que, en effet, les référendums se suivent à certaines années d'intervalle. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand il y a beaucoup de temps entre deux référendums, comme on a vu avec les premiers référendums sur la dévolution en 1979 et les deuxièmes en 1997, et là on parle de l'Europe, donc Trevor a fait référence au référendum de 1975 et peut-être un autre référendum dans deux ans, les temps changent, les gens changent, les gens grandissent, le monde change, il y a de la technologie, il y a la globalisation, donc c'est pas gagné d'avance du tout.
Oui, par rapport à ces références, bon, Churchill, bien sûr, mais y a plus proche de nous, Tony Blair avait, dans un discours, je n'ai pas la citation exacte en tête, mais l'idée, c'était que le rôle de l'Angleterre devait s'affirmer dans l'Europe, mais sa phrase indiquait clairement que la Grande-Bretagne avait des choses à apporter à l'Europe pour avoir un rôle de leader, en fait. Donc, on est...
C'est quoi, c'est de l'arrogance?
Non, c'est vraiment une vision... je pense que c'est une conscience des qualités et de la grandeur, pas uniquement passée. La Grande-Bretagne a quand même été un leader mondial. C'est la Grande-Bretagne qui a inventé le modèle de société qu'on connaît actuellement. Société industrielle, société de consommation, la globalisation. Ils ont été supplantés par les Américains et Londres a été supplantée par New York. Mais le modèle est sorti d'Angleterre et d'Écosse.
Trevor Harris, les Anglais se vivent comment aujourd'hui, comme appartenant à une grande puissance? Une puissance moyenne, une puissance en déclin?
Je pense que l'anglais moyen se rend de mieux en mieux compte qu'il appartient à une puissance régionale. Mais tous les Anglais ne sont pas moyens. Et justement, au sein de la classe politique, je crois que pour désapprendre cette habitude du pouvoir à l'échelle globale, il y a une transformation en marche, mais qui me paraît très très lente. C'est-à-dire que l'idée d'une grande Bretagne, d'une plus grande Bretagne, a une longévité vraiment non négligeable. Et je crois que c'est la discordance entre cette habitude de penser, même cette habitude d'agir dans les différents ministères du gouvernement, et la réalité sur le terrain. L'espace entre les deux est en train de se réduire, mais est loin d'être le néant pour l'instant.
Ce qui pourrait peut-être nous permettre de faire un parallèle entre la France et la Grande-Bretagne, justement, et l'Angleterre, c'est-à-dire des puissances qui se voient peut-être plus grandes qu'elles ne sont véritablement aujourd'hui, Moya Jones ?
Oui, oui, peut-être. Les deux pays se ressemblent énormément. Les deux sièges au Conseil de sécurité, par exemple, à l'ONU, membres de l'OTAN, de très grandes puissances coloniales à l'époque. Mm-hmm. Population de la même taille, etc., même si la France est deux fois plus grande que l'État britannique actuel. Mais oui, on se rend à l'évidence qu'on n'a plus la même puissance globale actuelle. C'est les États-Unis. Il y a une seule superpuissance dans le monde, c'est les États-Unis. Et ça passe, je pense. Je passe cette idée d'être au deuxième rang. Oui, il y a la gloire du passé. Oui, on peut encore jouer un rôle, mais on ne peut plus se permettre de croire qu'on est en première ligne.
On ne peut plus se le permettre. Est-ce qu'il peut aussi y avoir certaines velléités isolationnistes, c'est-à-dire de prendre acte justement de ce nouveau rôle mondial, de se dire, ben voilà, peut-être qu'il faut qu'on évite d'intervenir sur n'importe quel conflit. On se souvient par exemple que c'est du côté de Londres l'an dernier, à la fin août, que la Chambre des Lords qui a refusé qu'il puisse y avoir une intervention militaire en Syrie, que les États-Unis ont suivi. Il y a une tentation isolationniste anglaise aujourd'hui, Roselyne Théron.
Alors, sur le plan politique, je ne serais peut-être pas affirmative. Moi, j'avais envie de m'inscrire un petit peu en faux par rapport à, encore une fois, la Grande-Bretagne, l'Angleterre. Moi, je suis très souvent à Londres et mes recherches ont débuté sur cette zone-là. Londres se voit et a un réel leadership au niveau mondial. Quand on regarde les capitales globales, où tout se joue, mais pas uniquement en termes financiers, en termes d'attractivité, en termes de culture, en termes de tout. Londres tient sa place, tient son rang, mais fait mieux que le tenir. Londres est en concurrence directement. Donc,
Londres serait presque plus puissante finalement que le Royaume-Uni ?
Pour moi, dans certains aspects, c'est évident. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde les sentiments d'appartenance après les attentats de 2005, il y a eu beaucoup de sondages, puisque le choc, c'était que les terroristes avaient grandi sur le sol britannique. Les gens se déclaraient dans les sondages, pas nécessairement britanniques, londoniens et quelque chose. Y compris quand c'était dans des minorités, il n'y a pas d'équivalent français, minorité visible, mais ça, c'est un a priori négatif en français. Mais voilà, l'identité londonienne, la culture londonienne, elle est extrêmement forte et elle s'appuie sur une réalité dans tous les domaines. Après, le problème, c'est, je disais hydrocéphale tout à l'heure, est-ce que c'est bénéfique au reste de l'Angleterre ou pas ? Il y a des gens qui se posent ouvertement la question.
Trevor Harris et Moya Jones. Trevor Harris.
Oui, c'est un vrai problème, je crois. On parlait tout à l'heure de l'identité britannique, qu'est-ce que c'était. Il y a une véritable recherche qui est en cours et peut-être justement l'objet qu'il faudrait mieux cerner pour remodeler cette identité anglaise ou britannique consisterait justement à aller un peu dans le sens que Roselyne vient d'évoquer, et c'est pour reprendre une expression qui a déjà été utilisée ce soir, dans le sens du soft power, c'est-à-dire que les Britanniques, les Anglais notamment, ont du mal à cerner ce qu'est leur véritable identité, parce que l'identité historique, c'est un peu délité. Donc, quelle est leur identité dans le présent? Et il faudrait, je crois, chercher à reconfigurer les choses pour que l'Angleterre et la Grande-Bretagne puissent justement caler son identité davantage sur les atouts que vient d'énumérer Roselyne.
Alors j'ai vu justement qu'au mois de mars, la Chambre des Lords avait publié un rapport sur le soft power britannique avec des préconisations. Alors j'ai pas lu le rapport, mais en gros, l'idée c'était d'accentuer les efforts. Mais j'étais finalement assez surpris parce que quand on est anglais, on a quand même la langue de communication mondiale. On a une culture populaire, mais populaire vraiment là aussi au sens mondial, c'est-à-dire pas seulement anglais. Ça veut dire que les Anglais doutent de leur influence culturelle à travers le monde aujourd'hui, Roselyne Théron ?
Alors, c'était, comme toujours, absolument passionnant et délectable de lire ce rapport, parce qu'il y a une liberté de langage qu'on ne connaît pas dans nos rapports de commission parlementaire en France. Il y avait en même temps une longue énumération des innombrables atouts et une mise en garde extrêmement sévère vis-à-vis du gouvernement actuel sur les conséquences des mesures budgétaires prises et des mesures parfois... rappeler ça populiste, en termes d'immigration, conséquences à long terme sur cette influence. Ce qui ressortait principalement, et par exemple John Major, un ancien Premier ministre, a été longuement entendu, et il expliquait que les atouts sont là, mais la Grande-Bretagne a tendance à s'endormir sur ses lauriers, parce que voilà, c'est tellement évident, la langue anglaise et tous ces atouts. Il n'y a pas de coordination, ils n'ont pas été capables de trouver au gouvernement quelqu'un qui a pu leur dire qui coordonnait l'action au niveau de qui gérait la diplomatie d'influence, le soft power. Foreign Office renvoyait la balle au cabinet du Premier ministre qui ne voulait pas se prononcer. Enfin, c'est un petit jeu assez drôle. Et en attendant, les coupes budgétaires sont là. Les universités ferment leurs départements de langues étrangères. Donc les Anglais ne parlent qu'anglais, alors que le reste du monde parle 2-3 langues. On restreint les visas pour les étudiants étrangers. On restreint les services, le BBC World Service, qui est une institution. Kofi Annan disait que c'était le plus beau cadeau que la Grande-Bretagne avait fait au monde. Et les nombres de langues utilisées est diminué drastiquement. Donc, ils sont très conscients de leurs atouts et très inquiets. Les gens qui s'intéressent à ça en détail, très inquiets sur les conséquences.
Moya Jones, sur cette question du soft power
Oui, je suis très d'accord. Je suis d'accord tout à fait avec ce que vient de dire Roselyne. C'est elle l'experte sur ce sujet. Oui, un pays qui, je reviens à ce que j'ai dit au début de l'émission, il n'y a pas de plan de contingence. C'est un pays qui dort quelque part. Ce qui me rappelle une citation de quelque chose qu'a écrit George Orwell, celui qui a écrit 1984. Lorsqu'il est revenu de la guerre civile en Espagne, et il regardait l'Angleterre, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui dort ? Qu'est-ce que c'est ce pays qui n'a pas de passion, qui n'a pas d'émotion, contrairement à l'Écosse aujourd'hui ?» Et il faut une bombe pour les réveiller, il faut une bombe, quelque chose. Et effectivement, c'est ça. On ne se rend pas compte de ce qu'on a. Et c'est perdu, quand c'est parti, alors là, il est trop tard. Il ne reste que des yeux pour pleurer.
J'ai vu Trevor Harris sursauter quand vous avez dit « c'est un pays qui dort
». Oui, je ne sais pas si le pays dort, mais je comprends très bien ce que Moya va dire. Mais le pays est peut-être confronté à une question qui est extrêmement difficile à solutionner. Et le rapport dont on parle, qui a été présenté par la Chambre des Lords, justement, de par même la manière dont il parle du soft power et de ce que doivent être les devoirs d'un gouvernement dans ce domaine, bute contre une espèce de contradiction. Parce que, en fait, le rapport dit très clairement que nous avons plein de choses à exploiter, nous avons énormément d'atouts, il faut absolument qu'on le fasse, et il faut que le gouvernement réagisse, mais surtout qu'il n'intervienne pas. Donc, je trouve ça fabuleux. C'est-à-dire que l'art de gouverner consisterait à ne rien faire. Et je me suis dit que finalement, ce soft power, en tout cas, la manière dont il est entrevu par la Chambre des Lords, est une chose très, très conservatrice. On demande pratiquement au gouvernement de revenir en arrière.
Mais ça doit être une illustration du fameux nonsense anglais, hein, finalement, peut-être cette approche. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois, d'avoir participé à cette discussion. Roselyne Théron, Trevor Harris, Harris et Moya Jones. Merci également à nos camarades de France Bleu Gironde à Bordeaux. Je précise que demain, Marc Voinchet et la rédaction, toute l'équipe des matins seront en direct d'Édimbourg. Ce sera de 6h30 à 9h. Nous, on se retrouve à 18h20 pour Du Grain à Moudre pour poser la question suivante. La législation antiterroriste menace-t-elle les libertés publiques ?